Mais donc, je vais vous raconter une histoire ce soir, qui est une très ancienne histoire. Je vais vous la raconter à ma façon. Mais avant, je vous présente un petit peu cette histoire. L'appelle l'hymne à la perle, ou encore le conte de l'exil. Parfois, d'ailleurs, on l'intitule carrément le conte de l'exil occidental. C'est une histoire qu'on retrouve en beaucoup d'endroits, des évangiles apocryphes, mais aussi qui est rapportée par exemple dans des contes du soufisme iranien. Et puis cette histoire a des variations en Inde. C'est une histoire qu'on qualifie d'une histoire gnostique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Elle réfère à la gnose, la gnose étant la connaissance intérieure. Autour de la gnose, je crois qu'il suffit de se rappeler que la connaissance libère. Au fond, c'est le thème de la gnose. La connaissance de quoi, ça reste mystérieux, mais au fond, ça tourne toujours autour de la connaissance de soi, la connaissance de notre véritable nature. Le problème avec quand on qualifie un texte de gnostique comme ça, c'est que ça dit tout et ça dit rien. Parce que les gnostiques, historiquement, ce sont les pères de l'Église, les hérésiologues au IVe siècle, qui désignaient des mouvements qui s'opposaient à la construction de l'Église telle qu'on la connaît, de gnostiques. Ces gens-là, eux-mêmes, ne se désignant pas comme tels. En effet, on trouvait souvent mention de la gnose dans leurs textes, mais ils ne s'appelaient pas eux-mêmes gnostiques. Ils préféraient souvent se désigner comme des sans-rois ou des hommes venant de nulle part. Et en fait, il semble que, au-delà de la dimension chrétienne de ces gnostiques, ça a une dimension pré-chrétienne et beaucoup plus universelle, puisqu'encore une fois, on retrouve ce texte dans le soufisme iranien, mais aussi dans des légendes qui sont antérieures au christianisme. Alors, c'est pas grave, le point clé finalement, fondamentalement, c'est qu'il nous parle c'est une des plus anciennes histoires à propos de cette fameuse gnose, de cette connaissance intérieure. L'histoire, je vais vous la raconter à ma façon, c'est-à-dire enjolivée, ça c'est le privilège du conteur qui s'amuse comme il veut avec une histoire. Donc, dans cette histoire, il était une fois. Il était une fois un jeune homme qui avait grandi dans un royaume merveilleux. Il était le fils du roi et de la reine de ce royaume merveilleux. Et jusque-là, il avait vécu une vie, on peut bien dire, merveilleuse. Lui-même étant, au fond, l'incarnation de la joie, et toutes les personnes qu'il croisait, qu'il avait rencontrées, avaient goûté quelque chose de la lumière qui dégageait. Leurs maux en étaient guéris, leur chagrin, leur désespoir en étaient effacés. Et il allait dans la vie sans se poser de questions, en étant simplement dans la lumière. Mais un jour, le roi, son père, et la reine, sa mère, l'ont appelé et lui ont dit que pour accéder à sa véritable royauté, il allait devoir partir. Il allait devoir quitter le royaume merveilleux pour entrer en quête d'une perle qui se trouve au fond de l'océan, dans la gueule d'un dragon. Et pour cela, il devait partir dans le pays voisin. Alors, dans les anciennes histoires, c'est pour ça qu'on nous parle de l'exil occidental, c'est que dans les anciennes histoires, ce pays voisin, c'est l'Égypte. Et donc, ça laisse entendre justement comment ce conte pouvait venir de l'Orient. Bien avant d'être recueilli par les évangiles apocryphes. Et il a protesté. Il a protesté. Pourquoi quitter la lumière? Pourquoi quitter le royaume merveilleux? Et son père lui a dit, mais c'est pour trouver ce qui porte quand il n'y a plus rien. C'est pour trouver, lui a dit sa mère, la foi que rien ne prouve. À ces réponses qu'il a reçues, le jeune prince s'est tu et il a accepté d'être emmené à la frontière. à la frontière des deux pays. On l'a dépouillé de ses vêtements de lumière, de la pourpre qui signalait son rang princier. Il n'a pas eu le temps de dire au revoir à son père, à sa mère. Il était en train de garder vers ce pays obscur qu'il n'avait jamais envisagé de visiter quand il a reçu une petite poussée dans le dos. Et il a fait un pas en avant et voilà qu'il s'est trouvé de l'autre côté de la frontière, qu'il s'est trouvé arrivé au pays obscur. Et là, revêtu de pauvres habits, il a commencé par errer. Les gens qu'il croisait ne le remarquaient pas, posaient sur lui des yeux indifférents. Ou quand il le remarquait, c'était pire que ça, il le jaugeait avec une certaine convoitise. Ils évaluaient combien il pourrait valoir sur le marché aux esclaves, si jamais on s'emparait de lui. Bref, il s'est senti très seul dans son errance. Il a mangé, il a bu les boissons qui lui étaient offertes dans le royaume obscur, et progressivement, il a commencé à s'endormir et à devenir comme tous ces gens qu'il croisait, un petit peu hébété, un petit peu endormi. Et progressivement, il a oublié qui il était et quelle était sa mission dans ce pays obscur. Et il a, dans une taverne, et il a rencontré une fille qui lui a rappelé quelque chose de la joie qu'il avait perdue. Il l'a épousée, il a eu des enfants avec elle, il a travaillé. Un jour, des brigands sont venus, ont enlevé sa femme. Il les a poursuivis, il a essayé de sauver son amour. Il a été battu. Il a été roué de coups, il a été ligoté, il a été amené sur le marché aux esclaves, il a été vendu à bas prix. Il a commencé à travailler comme un esclave. Et puis, ben, il n'a pas supporté l'esclavage, alors il s'est enfui. Et là, il a été rattrapé comme un esclave en fuite et il a été jeté en prison, dans les prisons du château du roi obscur, où il a, faut bien le dire, il a désespéré. Il a désespéré, il a attendu la mort, il s'est pensé qu'il jamais il ne ressortirait de sa prison. Et pendant ce temps, le roi, son père, la reine, sa mère, qui n'avaient pas de nouvelles de lui, ont envoyé un messager. Ce messager, c'était un oiseau. Un oiseau, la tradition soufie dit que c'était une huppe, c'est-à-dire l'incarnation. Le symbole de la sagesse parmi les oiseaux. Et cet oiseau s'est posé à la nuit tombée sur la petite lucarne, la petite fenêtre qu'il y avait dans sa geôle. Et pendant que le prince dormait épuisé, l'oiseau chantait. L'oiseau chantait et dans son chant, il chantait un message. Ce message était simplement « Souviens-toi de qui tu es. » Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi de quelle est ta mission, de ce que tu dois faire. Et le prince rêvait. Le prince avait des rêves étranges, des rêves dans lesquels il courait dans un palais, de marbre et d'or lumineux, rencontrant des gens souriants, qui, semblaient l'aimer, profondément. Des rêves dans lesquels, un homme se penchait sur son berceau, semblait-il, avec une femme, les deux rayonnant d'amour. Des rêves dont il se réveillait avec un sentiment que la vie nocturne était finalement bien plus intéressante que sa vie diurne. Si bien qu'il a commencé à beaucoup moins désespérer parce qu'il s'est intéressé à ses rêves. Il s'est intéressé à ses rêves, il a essayé de les comprendre, il avait hâte de dormir tous les soirs pour avoir des rêves, et nuit après nuit, la huppe revenait, la huppe chantait. Et à force de se passionner pour ses rêves, une nuit, il s'est réveillé. Il s'est réveillé en pleine nuit, et là, très curieusement, il comprenait le langage de la huppe, et il entendait son message. Souviens-toi de qui tu es, souviens-toi d'où tu viens, Souviens-toi de pourquoi tu es ici. Souviens-toi de quelle est ta mission. Et il s'est souvenu. Il s'est souvenu avant l'aube et tout lui est revenu à la mémoire. Alors quand le soleil s'est levé, il a tambouriné à la porte, et il a appelé le gardien. Et le gardien est venu, mais quand le gardien oui, lui a dit, mais voilà, je demande à être présenté à ton maître le roi, parce que en fait, je suis un invité d'honneur, je suis le prince des royaumes merveilleux, et je dois être reçu selon mon rang. Et là, le gardien, qui jusque-là n'avait pas de soucis dans la vie, il gardait comme un bon gardien, et il avait ce jeune homme dans ses geôles depuis un certain temps, qui ne lui posait pas plus de problèmes que les autres. Ben, il était en grande difficulté parce que voilà qu'il risquait sa tête s'il allait déranger le roi pour de mauvaises raisons, mais il risquait aussi sa tête si par hasard ce manant disait la vérité et que c'était un prince. Alors il s'est mis à trembler, il lui a dit mais comment reconnaît-on un prince comme vous? Par quel signe reconnaît-on un prince comme vous? Alors, le prince lui a dit, il y a un signe en effet. Et il a porté la main au milieu de son front, puis il l'a porté à la racine de son pubis, puis il l'a porté sur son épaule gauche, dans le creux de l'épaule gauche, puis dans le creux de l'épaule droite. Puis il a ramené sa main sur le cœur en faisant une spirale et il a mis la main ouverte devant lui. Et en faisant ça, son visage s'est comme illuminé, tout son corps s'est illuminé. Et là, le gardien a pris peur. Et a couru à travers d'abord la prison, puis le palais. Et il est allé trouver le roi qui en était à faire ses ablutions matinales. Il s'est jeté à terre et lui a dit « mon roi, il y a un prisonnier qui demande à vous parler. » En fait, il dit qu'il est un prince, il est un prince du royaume de lumière, un royaume merveilleux. Et il demande à être reçu en audience. Le roi qui était en train de faire ses ablutions n'a pas levé les yeux et lui a simplement dit « Mais à quel signe reconnaît-on ce prince ?» Et alors le gardien de prison s'est relevé et il a fait le signe. Et à son tour, son visage s'est éclairé et à son tour, il s'est redressé. Lui qui était un petit homme, pâle au falot. Tout d'un coup, il s'est mis à briller d'une certaine manière. Et le roi a souri et a dit « Ça fait longtemps. Longtemps que j'attendais sa venue. On m'avait dit qu'un jour quelqu'un sortirait de ma prison. Amène-le, amène-le, je vais le recevoir. » Et le temps que le gardien aille chercher le prince, le roi a fait servir un petit déjeuner royal. Le prince et le roi ont parlé, se sont racontés des histoires de princes et de rois dans lesquelles ils n'entreront pas. Trouvaient grand intérêt à échanger. Vers le milieu de la matinée, le soleil était déjà haut quand la princesse, la plus jeune fille du roi obscur, est venue comme tous les matins saluer son père. Et là, elle s'est trouvée bien interdite de le voir avec un invité, qui plus est un beau jeune homme malgré les haillons qu'il portait. Et en fait, dès que le prince l'a vu, leurs regards se sont croisés et il a su quel trésor il venait chercher, quelle était la lumière qui lui permettrait de traverser l'obscurité. Ils sont restés longtemps comme ça à se regarder avant que le roi se racle la gorge et dise « Bon, et à part de m'enlever ma fille bien-aimée, qu'es-tu venu chercher dans mon royaume ?» Alors le prince est un petit peu ressaisi et il dit « Voilà, mon roi, il y a, paraît-il, au milieu de l'océan, une perle que garde un dragon, et je dois aller la chercher. » Et le roi a souri, a dit « Oui, oui, bien sûr, je suis au courant de cette histoire, mais seul un cœur complètement pur peut aller chercher cette perle. Tu m'as l'air d'être un de ces cœurs, alors je vais t'aider. En fait, c'est très simple. Il faut aller au milieu de l'océan et plonger verticalement au moment où la lune est pleine au-dessus de l'océan, au moment où La perle qui est au fond de l'océan se reflète dans le ciel, dans la pleine lune. Et c'est le moment où le dragon est endormi. Et dormant, il ouvre sa bouche. Enfin, est impossible d'aller y chercher la perle. Mais la difficulté n'est pas là. La véritable difficulté n'est pas tant d'aller chercher la perle que de revenir à la surface. Tellement se sont perdus, tellement n'ont pas réussi à remonter à la surface. Alors, nous allons affréter un navire et on verra bien si tu es capable d'aller chercher la perle et de la ramener. Alors, le prince est parti avec sa bien-aimée à bord du bateau, qui tenait absolument à participer à l'aventure. Ils ont trouvé facilement le milieu de l'océan, qu'indiquaient toutes les cartes, bien sûr. Ils ont attendu la pleine lune, une magnifique pleine lune dans le ciel, la perle du ciel était dans le ciel. Et au moment où le prince s'apprêtait à plonger, la princesse a dit, Mais moi je vais rester ici, mais je vais chanter pour toi. Je vais chanter pour t'accompagner dans ton voyage. Et si Dieu le veut, mon chant te ramènera. Et en effet, le prince a plongé, il a plongé verticalement. Et a trouvé la gueule du dragon entrouverte. Le dragon était tellement grand, tellement immense que sa gueule était, un grand cratère ouvert. Et au profond de cette gueule, il a trouvé une toute petite perle brillante, absolument magnifique. Et à peine l'a-t-il touchée que il s'est retrouvé dans la lumière, il s'est trouvé dans un espace de joie incommensurable, dans une félicité dans laquelle le royaume obscur, le royaume de lumière étaient réunis, il n'y avait plus de division. Et il a commencé à oublier à nouveau tout ce qu'il était venu faire. Mais c'est le moment où le chant de la princesse parvenu. Et c'est ce chant qui l'a ramené. C'est grâce à ce chant qu'il est remonté, qu'il a ramené la perle. Et évidemment, vous devinez la fin de l'histoire, ils sont revenus au palais du royaume du roi obscur, ils sont mariés, la princesse portant la perle sur son diadème, et puis le jeune prince s'est rendu à la frontière avec son épouse, et le roi et la reine du royaume lumineux les attendaient. Ils ont revêtu le prince et la princesse d'habits de lumière, ainsi que tous ceux qui les accompagnaient. Et la conclusion de l'histoire, c'est que, à partir de ce moment-là, le prince était roi en son propre royaume, avec la reine en son propre royaume. Et la perle, elle est toujours au fond de l'océan. Elle attend toujours celui, celle, qui sera plongée assez profondément pour aller la chercher et pour en revenir. Voilà l'histoire, encore une fois enjolivée à ma façon, l'histoire qu'on raconte depuis très longtemps, d'innombrables façons, et qui est l'histoire de la quête. J'ajouterais simplement que c'est pas un hasard qu'on parle d'une perle. Certains disent que ce n'est pas un symbole, que celui, celle qui y trouve, vraiment, qui plonge assez profondément à l'intérieur et qui trouve cette fameuse gnose, cette fameuse connaissance de qui nous sommes, de ce que nous faisons ici, trouve une boule de lumière, une perle. D'autres disent que c'est une perle parce que il y a là aussi dans l'image de la perle une façon de rappeler ce qu'on peut faire avec les souffrances. Toutes les difficultés qu'on rencontre dans la vie. Parce qu'il faut nous rappeler que les perles, les huîtres les fabriquent à partir d'un grain de sable. C'est parce qu'il y a un grain de sable qui vient les irriter que la perle est créée par la nacre qui enveloppe le grain de sable et qui en fait quelque chose finalement d'infiniment précieux. C'est une autre des façons de concevoir le symbole de la perle. Je vous dirais aussi que chez certains peuples chamaniques, on a cette idée que la conscience est comme un oignon, qui a des couches, qui sont des couches de rêve. Dans notre réalité ordinaire, nous serions simplement à la surface de l'oignon, c'est-à-dire dans un rêve que nous partageons tous. Mais qu'en creusant, en écoutant, on trouve des couches et des couches et des couches, des pelures d'oignons, des couches d'oignons, des couches de rêve. Mais qu'au centre de l'oignon, ben, c'est très curieux, parce qu'il y a des peuples comme ça qui disent, il y a une perle. Ce qu'il y a, c'est une perle. C'est une boule de lumière, de conscience pure.